C'est dans le rire et la bonne humeur qu'on entreprend cette discussion. Certains diraient qu'on n'a plus le droit d'avoir du fun. C'est faux! En tout cas, pour Décrypteur, salut Jeff et Nicolas.
On peut plus rien dire.
On peut plus rien dire. Nicolas, là, il est indisposé par l'humidité. Il y en a beaucoup à dire là-dessus. Ça va aller, Nicolas?
Ben oui, c'est correct.
Reste
on
calme.
Est content. Non,
reste
non, je suis content.
C'est pas ça que tu disais tantôt.
Non, mais tu sais, on chiale pour chialer. Là. C'est un passe-temps.
C'est un passe-temps.
Moi, ça va.
Toi, ça va, hein, oh, Jeff. Ouais. Imperturbable.
Absolument.
Imperturbable, même si Elon Musk s'apprête à augmenter en valeur. On en reparlera dans quelques instants. Restons calmes. Beaucoup de commentaires. Est-on surpris? Est-on surpris sur ce débat qu'on avait lancé la semaine dernière sur la semaine prochaine ou vendredi
oui.
prochain ou le fait de dire vendredi prochain, est-ce qu'on veut dire le vendredi qui s'en vient ou l'autre de la semaine d'ensuite?
J'ai perdu, est-ce que je comprends?
Oui, ben c'est ça.
Ben, c'est ça. C'était quand même partagé. Là.
C'était partagé. C'était quand même partagé. Mais je pense que le team Alexis a eu le dessus.
Ouais.
Un petit peu.
Ouais. On a reçu des courriels aussi, mais ouais.
Le vendredi de la semaine prochaine, le vendredi de la semaine en cours plutôt, c'est vendredi ou ce vendredi, nous dit une personne. Vendredi prochain, c'est celui de la semaine prochaine.
Je suis d'accord avec ça.
Bon. Il y en a une qui me dit, vendredi prochain, c'est le vendredi le plus près temporellement. Personne va me faire changer d'idée. J'ai raison.
Hey, la polarisation.
La polarisation, elle s'infiltre partout, mesdames et messieurs. Pour moi, le vendredi prochain jusqu'au mercredi est celui de la semaine. À partir du jeudi, c'est celui de la semaine suivante. Un peu compliqué, mon affaire.
Ah, ouais, non, ça, c'est...
Non, je pense que c'est un compromis. C'est un bon compromis, ça.
Ça ressemble à un
tu
compromis.
Tu vois, la polarisation, on peut régler les choses. J'aime bien ce compromis-là, personnellement.
Hey, bravo. Bravo à vous. Je vote pour vous. Suggestion, dans un but de communiquer de façon claire, évitons vendredi prochain et utilisons ce vendredi ou vendredi la semaine prochaine. OK. Une autre personne nous dit, éliminons l'ambiguïté et disons simplement vendredi le 5 ou le 12. C'est plus court. Ben ouais. Alors, voilà qui est dit. Autre petit débat qu'on a suscité. Poutine avec du ketchup.
Non, arrête ça, là.
Nicolas veut pas qu'on en parle, on en parle quand même. Il y en a un qui nous dit de la mayo dans la poutine, c'est 100% mieux que du ketchup, surtout quand c'est une sauce plus barbecue, genre Benny.
Oh! Ouais, non. en tant que natif de la Rive-Sud, je viens de Saint-Hubert, donc connais très bien Benny. Je suis pas certain du ketchup sur la poutine du Benny. Mais écoute, je suis libertarien avec ça.
Comme Nicolas.
Oui.
Louis-Charles, tu viens du lac Saint-Jean, n'est-ce pas? Quelqu'un qui nous a écrit, représentant du Saguenay. Ah, c'est pas la même chose. Nord du Québec. Tu peux choisir chez nous entre sauce barbecue, souvent sucrée, ou brune, dit hot chicken, dans la poutre. Le ketchup est l'ingrédient principal de la sauce barbecue sucrée. Bourrer une poutine de ketchup, c'est juste une manière de rescaper une poutine sauce brune, bien ordinaire, en poutine sauce barbecue sucrée. Bref, pas sûr, Louis-Charles, hein? Le colonel n'est pas d'accord. Alors qu'un autre nous dit, j'aime y ajouter du vinaigre. Ah, ben là, je suis pas sûr non plus. On ferme cette parenthèse. mine de rien, là, on plaisante, on s'amuse. Jeff trouve ça très drôle, à juste titre. Mais cet épisode-ci, n'hésitez pas à le liker, à ajouter des pouces en l'air. Vous le faites très bien depuis quelques semaines. On vous aime pour ça et pour toutes sortes de raisons. Continuons ensemble, collectivement, à titiller l'algorithme. J'allais dire que cet épisode-ci, on l'entreprend, chers amis, avec un début de pincement au cœur. C'est l'avant-dernier de cette saison-ci. Bien sûr qu'on revient en septembre prochain, mais il va falloir prendre une petite pause au courant de l'été. Jeff?
Mais on a une annonce vraiment cool à faire la semaine prochaine, vraiment excitante. On ne vous dit pas c'est quoi. Essayez de deviner c'est quoi.
Oui, essayez de deviner.
C'est pas la page YouTube.
C'est pas la... Non, on n'aura pas une chaîne YouTube.
Mais essayez de deviner qu'est-ce qu'on vous annonce la semaine prochaine pour le dernier épisode en grande primeur.
On a hâte de vous divulguer cette grande nouvelle, on va dérouler un tapis rouge. J'arrête ici. On se disait entre nous qu'on a beaucoup d'éléments au menu.
Beaucoup de choses.
Beaucoup de choses. On va le dire de cette façon-là, pour ne pas le dire autrement. Mais vraiment, on gère l'abondance. Il a fallu faire des choix. C'est toujours très difficile, mais on a dû faire des choix parce que l'actualité tech, l'actualité à bien des égards dans nos domaine de prédilection. Elle est très, très, très foisonnante cette semaine, mais on n'avait pas le choix de vous parler, notamment des réseaux sociaux interdits aux moins de 16 ans. C'est une offensive qui s'amorce contre les contenus dits préjudiciables visant les mineurs. Ottawa passe à l'action, dépose un projet de loi. Est-ce qu'il va survivre au test de la réalité? On vous parle aussi de Methos, lâché lousse, jugé trop dangereux il y a quelques mois à peine, accessible à tous dès maintenant, mais Ça va coûter cher, à condition de payer. Déjà, il y a quelques changements qui se profilent à l'horizon. Jeff aura des détails à nous livrer. Jeff l'a testé, d'ailleurs. Décollage, donc, en bourse pour SpaceX. La fortune d'Elon Musk risque d'atteindre des niveaux plus que stratosphériques. De révolutionnaire à désuet, est-ce que l'ère des robots conversationnels tire à sa fin? Certains le croient, et certains de ceux qui le croient, ben, ce sont des gros joueurs de l'industrie. L'IA agentique a donc le vent dans les voiles. Apple entre enfin dans la danse, on en glissera un mot. Avez-vous entendu parler de Cohere, censé incarner le visage canadien de l'IA? Cette entreprise torontoise est en train de devenir un rouage central de l'industrie avec la bénédiction d'Ottawa. Tout ça alors que la controversée Palantir taille aussi sa place au Canada. On peut dire que c'est parti pour le 107e épisode du Balado des décrypteurs. Ben voilà qui est fait, chers amis. Un premier pas a été franchi vers une interdiction formelle des réseaux sociaux pour les 16 ans et moins au Canada. Au-delà de cette interdiction, il y a beaucoup de choses à dire, bien évidemment. Le projet de loi qui se nomme C-34, notez-le bien, a été déposé un peu plus tôt cette semaine. Il déploie toute une série de mesures qui visent à exposer ou protéger plutôt les jeunes contre des contenus dits préjudiciables. À la lumière de l'expérience australienne, il y a beaucoup de questions qui se posent. Déjà, des failles sont décelées, des critiques ont été énoncées. Nicolas, pendant un certain temps cette semaine, mercredi pour être plus précis, enfin, toute fin d'après-midi, tu as disparu, on ne te voyait plus autour de nous. Tu étais dans une petite salle enfermée, en train d'écouter attentivement le brefage technique offert par les hauts fonctionnaires du gouvernement fédéral à ce sujet-là. Je te laisse mettre la trame sur ce projet de loi que tu attendais toi-même avec impatience.
Oui, parce que ça fait un bout de temps qu'on dit si ça s'en vient, la vérification d'âge en ligne au Canada s'en vient. Voilà, c'est là. Puis comme tu le mentionnais, ce qui retient le plus l'attention de ça, c'est qu'on va interdire, du moins pour une certaine période de temps, les réseaux sociaux pour les personnes âgées de moins de 16 ans. Comment est-ce qu'on assurera ça? Ce sera via de la vérification d'âge. Donc, les plateformes elles-mêmes seront responsables d'implanter des technologies pour vérifier ou estimer l'âge des gens. Le projet de loi ne dit pas exactement c'est quoi les moyens qui devront être entrepris pour ce faire, mais on peut imaginer un peu comme ailleurs que on pourrait peut-être avoir du balayage facial ou est-ce que les données seront supprimées par la suite d'un fournisseur tiers.
Ce qui n'est pas de la reconnaissance faciale.
Est-ce que ça pourrait être qu'on balaie une pièce d'identité puis que là, c'est rapidement supprimé par la suite en principe? Est-ce que en France, je sais qu'on peut avoir une espèce de certificat de certains organismes ou certaines organisations, comme une banque, par exemple, pour certifier qu'on a un certain âge, c'est anonyme par la suite. Il y a tout un système là, qui devrait être mis en place par ces réseaux-là pour vérifier l'âge des gens. Puis on s'entend, j'imagine, il faudra que le commissaire à la vie privée approuve de ces moyens-là.
C'est vrai.
Je pense qu'il y a une des idées qui circule beaucoup avec ça, c'est que là, les réseaux sociaux auront nos informations entre oui. leurs mains.
C'est une crainte qui est évoquée. Ouais.
C'est une crainte qui est évoquée.
Est-ce que c'est légitime?
Difficile de le dire parce qu'il n'y a rien qui est concret là-dedans. Mais ce qu'on voit ailleurs, c'est que c'est des tierces parties qui s'en occupent. Des tierces parties qui disent s'occuper de ces données-là de manière sécuritaire. Encore là, s'il y a des fuites qui surviennent, ce sera le seul test de la réalité. Est-ce que réellement, ils détruisent des données après les avoir utilisées? Mais bon, en principe, c'est censé être des moyens sécuritaires qui sont déployés. En plus de ça, il y aurait de la vérification d'âge pour les sites adultes, donc les sites pornographiques. Ça fait partie de ce même projet de loi-là. Mm-hmm. Donc, on va vraiment implanter un régime de vérification d'âge sur Internet avec le projet de loi. Ça, c'est une des facettes qui en fait partie. Donc, ça rejoint ce fameux projet sénatorial que Julie Miville-Deschênes avait oui. déposé. Il y avait aussi le projet de loi C-63 qui était sur la table pendant que Justin Trudeau était en poste sur les préjudices en ligne. Mm-hmm. Ça aussi, il y a une bonne partie de ce projet de loi-là qui est intégré à ce nouveau projet de loi C-34.
Qui devient en quelque sorte une sorte de loi omnibus du numérique, là, avec autant de facettes. Là.
C'est ça, parce que ce qu'on veut faire avec ça, c'est responsabiliser les réseaux sociaux face au contenu préjudiciable. Donc, il y a 7 catégories de contenus mm-hmm. préjudiciables qui devront être modérés. Il faudra que les réseaux sociaux fassent preuve d'un certain effort pour réduire l'exposition à ces contenus-là. Donc, Il y a de contenu qui fomente la haine, le contenu qui incite à la violence, le contenu extrémiste et autres. Puis, dans ces contenus préjudiciables-là, il y a d'autres catégories comme du contenu qui victimise sexuellement un enfant, du contenu sexuel partagé sans le consentement des gens. Donc, pour appliquer cette loi-là, il y a une nouvelle commission qui sera formée. C'est la Commission canadienne sur la sécurité numérique. Elle sera mise sur pied d'ici 18 mois.
Indépendante.
Indépendante du gouvernement. Et c'est elle qui va établir les règles pour ces médias sociaux-là.
Salut, salut. Une petite précision s'impose avant de poursuivre avec la discussion. Dans le segment qui s'en vient, Nicolas affirme à quelques reprises que c'est la Commission canadienne de la sécurité numérique qui a la responsabilité de fixer les règles. En fait, c'est le gouvernement qui établit les règles, qui encadre les réseaux sociaux. Mais c'est la commission qui a la responsabilité de les appliquer. Vous allez me dire que c'est une petite nuance, c'est vrai, mais c'est une nuance importante. Vous le savez, on a la rigueur à cœur. C'est dit. On poursuit, on retourne à la discussion.
Donc, les plateformes devront produire des rapports annuels où est-ce qu'ils montrent comment est-ce qu'ils font un effort pour limiter l'exposition des gens à ces contenus-là. Ils devront aussi garder des dossiers transparents de quelles actions qu'ils ont entreprises pour ce faire. Et les plateformes devront aussi toutes avoir une personne ressource auprès de laquelle les gens pourront soumettre des plaintes, pourront communiquer avec ces plateformes-là. Et bon, ça facilitera la communication des gens avec les plateformes. Il y a aussi d'autres dispositions dans la loi où est-ce qu'on dit « Ah, ben il faut que les plateformes aient des outils pour signaler le contenu problématique. » C'est un peu ce qu'ont déjà les plateformes maintenant. Ouais, là. Puis il faut que les plateformes fassent un suivi avec le contenu qu'on signale. Donc, on n'oblige pas les plateformes de retirer le contenu préjudiciable, mais il y a deux formes de contenu préjudiciable qui devraient être retirées en dedans de 24 heures. Sinon, il y aura des conséquences, et ça, c'est le contenu qui victimise sexuellement des enfants, qui revictimise des survivants, ou encore du contenu intime communiqué sans consentement. Donc, vraiment, le contenu le plus grave, là, ça, il y a une obligation d'agir en dedans de 24 heures, sinon les gens peuvent se mettre une plainte, puis il y aura des amendes qui pourront être données.
Et si je comprends bien, si les compagnies répondent aux critères fixés par Ottawa, elles pourront être indemnisées, pas indemnisées, mais être retirées de l'obligation d'interdiction pour les moins de 16 ans?
Ça, c'est un peu nébuleux, mais la commission elle-même pourra déterminer c'est quoi que ces entreprises-là peuvent faire si elles veulent avoir une exemption
c'est ça.
Pour que les personnes âgées de moins de 16 ans aillent sur la plateforme. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ce qu'ont confirmé les représentants du gouvernement, c'est qu'il peut y avoir différentes versions de ces services-là. Donc, on ne sait pas exactement en quoi ça consisterait, mais par exemple, disons qu'ils décident qu'il faut que les comptes de mineurs ne puissent pas entrer en contact avec les comptes d'adultes, qu'il faut que les algorithmes soient seulement chronologiques, par exemple, et toutes sortes d'autres mesures comme ça. Là, j'invente, ce n'est pas des mesures concrètes, mais la commission peut établir toutes sortes de balises pour que peut-être une version de leur produit soit offert aux personnes âgées de moins de 16 ans. Donc, la commission pourra déterminer c'est quoi ces critères-là. Est-ce que les plateformes vont plier? Est-ce que les plateformes vont offrir une application distincte pour les personnes âgées de moins de 16 ans? Est-ce qu'ils vont juste faire « garde, on interdit ça aux moins de 16 ans, puis ça finit ainsi ». C'est impossible de savoir comment tout ça se terminera, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y aura de la vérification d'âge et que ça, c'est un peu le nœud de ce projet de loi-là. Du moins, c'est comme ça que moi, je le lis.
C'est un peu comme YouTube Kids, dans le fond, qui est comme une version de YouTube où c'est juste du contenu approprié pour enfants. Ça serait le genre de choses comme on pourrait imaginer une version Facebook Kids ou Instagram Kids.
Messenger Kids existe aussi.
Fait que, est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont mettre les ressources juste pour aller chercher le marché canadien? Ça, c'est une autre question, on l'a vu.
C'est un petit marché.
C'est un petit marché. Quand il y a eu C18, où on voulait forcer les plateformes à rémunérer les médias pour les liens qui sont partagés, ben Meta a tout simplement dit non, on ne va pas souscrire, puis on va tout simplement bloquer les médias canadiens. On voit avec les débats autour de C22 aussi, où les plateformes sont comme, ben si vous passez cette loi-là, peut-être qu'on va quitter le pays. Ça serait intéressant de voir leur réaction par rapport à ça, mais j'imagine que créer des versions de ces services-là juste pour enfants... déjà que les jeunes de moins de 13 ans sont déjà là, bannis des réseaux sociaux majeurs, est-ce qu'ils vont mettre les ressources pour aller chercher là, entre 13 et 16 ans?
Ouais.
C'est ça la question qu'on se pose. Puis on a entendu Mark Zuckerberg lui-même le dire en Californie quand il y a eu ses procès là, par rapport aux enfants qui sont mis en danger sur les plateformes. Il disait, ben nous, notre but, c'est pas de faire de l'argent sur les ados, c'est que ça représente une infime minorité de nos profits. Puis tu sais, encore une fois, est-ce que la commission va... Encore une fois, on spécule, mais la commission pourrait dire, ah ben tu sais, dans la version pour enfants, faut pas qu'il y ait de publicité, par exemple, faut pas qu'il y ait de publicité ciblée. Tu sais, on le sait pas vraiment comment ils vont encadrer ça et ce sera quoi les exemptions. Donc, cette idée-là, il y a un discours que j'ai entendu autour de ça, où est-ce qu'ils disent, les gens disent, ah ben tu sais, l'exemption, dans le fond, ça donne une porte de sortie à ces plateformes-là, puis c'est juste, c'est pour plaire au gouvernement américain, dans le fond. On le sait pas, tu sais, ça se peut que ça soit vraiment onéreux ce que la commission va demander.
Ouais, ça se peut, mais ce que tu viens de dire, moi, là, on sort un petit peu du cadre de la discussion purement, là, mais politiquement, il y a quelque chose qui se passe. Ce sont les tensions avec Washington, c'est la renégociation de l'accord de libre-échange avec le Mexique et les États-Unis. On a vu qu'Ottawa a reculé en ce qui a trait à la taxe Netflix récemment pour satisfaire aux demandes des Américains. Les Américains vont mettre le paquet pour défendre leurs entreprises que sont Meta et les autres dans ce dossier-là, je présume. C'est là où j'ai hâte de voir si Ottawa va vraiment rester campé sur ses positions.
D'un côté, oui. D'un autre, tu as quand même d'autres juridictions qui ont mis en place des mesures de vérification d'âge. Donc, cet aspect-là, en tant que tel, il y a déjà de l'infrastructure en place ailleurs pour le faire. Mais pour l'autre partie de la loi où est-ce qu'on demande des comptes à ces entreprises-là, à quel point est-ce que ça va les engager à faire beaucoup de choses? C'est la question, parce que la commission va devoir évaluer et trancher s'ils font assez d'efforts. Il n'y a rien de comme imposé nécessairement à ces plateformes-là, à part retirer le contenu le plus préjudiciable, c'est-à-dire qu'on le disait, abus sexuels sur enfants ou images intimes partagées sans consentement. Fait que c'est difficile de savoir c'est quoi vraiment le mordant du gouvernement là-dedans. Là.
En parlant de mordant, il y a des amendes, non, qui sont prévues?
C'est ça. C'est la commission pour évaluer l'amende qu'ils vont donner si les plateformes n'en font pas assez à leurs yeux. Ça peut être jusqu'à 3 % de leurs revenus annuels ou jusqu'à 10 millions de dollars, lequel des deux montants qui est le plus élevé. Donc encore là, tout ça est... Ça reste assez nébuleux parce que c'est la commission qui va établir ces balises.
Le prochain moment pivot, ça va être ça. La commission qui la compose, qu'est-ce qu'il exige comme exigence et qu'est-ce qu'il demande comme exigence.
C'est ça. Puis il y a eu aussi des informations un peu contradictoires qui ont été partagées hier sur la commission parce qu'on a vu le ministre Mark Miller, qui est le ministre de l'Identité et de la Culture canadienne, dire que dès que le projet de loi est assermenté, on va interdire les réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, puis quand la commission sera mise sur pied et mettra les balises, c'est là que peut-être il y aura des exemptions. Alors que la loi, en fait, ne dit pas ça. La loi dit que c'est au moment que la commission est formée que la loi entre en vigueur. Donc, ça aussi, il y a un peu
Encore une fois. Parlant de flou, mais c'est ça, tu sais, j'en parlais justement de cette idée-là de restreindre l'Internet aux jeunes avec Samantha Cole de 404. Tu sais, elle voit ça comme quelque chose d'extrêmement inquiétant dans le contexte américain. Puis, tu sais, on jasait de ça, puis... Personne veut que des enfants voient de la pornographie extrême. Personne veut que des images non consensuelles circulent sur le web. Tu sais, je veux dire, ça, tout le monde est d'accord. Il n'y a personne qui veut ça. Le problème, c'est dans les cas limites, les fameux edge cases. Puis c'est là que ça devient une question de principe, dans le sens, qu'est-ce qui est du contenu auquel les enfants ne devraient pas être exposés? Tu sais, oui, de la pornographie très graphique, je pense que tout le monde est d'accord, mais... Est-ce que du contenu violent, c'est approprié? Puis là, est-ce qu'on censure de l'information sur des conflits armés envers auprès des jeunes? Aux États-Unis, tu sais, un des enjeux, c'est l'accès à l'information sur l'avortement ou aux droits LGBT. Tu sais, aux États-Unis, il y a des efforts de vouloir restreindre l'accès à ça parce que c'est vu comme étant pas approprié pour des jeunes. Puis... Quand on donne ce pouvoir-là à un gouvernement, ben ça ouvre la porte.
Ça ouvre une brèche, oui.
Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui est d'accord sur qu'est-ce qui devrait être accessible aux enfants. Tu sais, je veux dire, il y a des cas qui sont assez clairs, mais c'est dans le flou, justement, que je pense que beaucoup de gens s'inquiètent par rapport à ça.
Mark Miller, que tu évoquais tantôt, était assis, puis derrière lui, il y avait son collègue du Conseil des ministres, Evan Solomon.
Petite poignée de main à la fin.
Petite poignée de main. Il écoutait donc attentivement Evan Solomon, je le rappelle, qui est le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation. Celui qui a présenté le plan la semaine dernière sur la stratégie nationale sur l'IA. Parlons d'IA parce que ce projet de loi se prononce aussi sur les robots conversationnels en des termes beaucoup moins contraignants toutefois.
Ben, écoute, il faut que... Un des termes qui revenait beaucoup hier, c'était le safety by design, la sécurité intégrée dans le design des plateformes. Donc, on veut que les médias sociaux le soient, puis on veut aussi que les robots conversationnels soient plus sécuritaires. Donc, on veut pas qu'ils émettent du contenu préjudiciable. Il y a le même genre d'obligation ou du moins de garde-fou qui s'applique aux robots conversationnels, mais il y a pas... De vérification d'âge pour les robots conversationnels. Puis, ce que dit le gouvernement, ce que dit Mark Miller, c'est que on dispose de beaucoup de preuves sur les effets néfastes des réseaux sociaux sur les jeunes, mais on dispose pas nécessairement de ces preuves-là pour les robots conversationnels en ce moment. Donc, ce serait un peu... Pardon?
C'est trop nouveau, tu sais. C'est quand même récent comme technologie.
C'est ça. Fait qu'il est comme, peut-être, éventuellement, mais pour l'instant, c'est trop nouveau, puis on
sait pas. C'est débattable.
C'est toujours ça l'enjeu avec les robots conversationnels, c'est qu'on s'en remet à la bonne volonté de ces plateformes-là. Tu sais, s'il y a une photo nue, non consensuelle, qui circule sur les réseaux sociaux, les gens peuvent le signaler, puis... Mais le robot conversationnel, c'est des conversations privées. Ils ont leur propre système de détection là, de si le robot donne des réponses qui sont inappropriées pour plein de raisons. Puis personne ne peut aller voir qu'est-ce qu'il y a dans ces conversations-là puis de le signaler. Fait que c'est vraiment... ça serait intéressant à voir comment ils vont, vont forcer ces entreprises-là à mettre des balises, surtout étant donné que les gens ont des conversations souvent très sensibles avec les robots conversationnels.
Ben oui.
Là, est-ce qu'on veut que les entreprises, que les êtres humains aient accès à tes conversations pour voir si tout est correct? Ça ouvre toute une boîte de Pandore de questions.
Ben voilà pour ça. Entre-temps, veux-tu ajouter un petit quelque chose sur C22, Nicolas?
Oui, on parlait la semaine dernière de comment un représentant de la GRC en comité parlementaire semblait indiquer que le projet de loi C22 permettrait aux forces de l'ordre de contourner le chiffrement. On avait reçu une réponse de la GRC qui n'était pas tout à fait claire. ils me sont revenus par la suite pour dire que Brian Larkin, dans son allocution au Parlement, se référait tout simplement aux outils d'enquête embarqué de la GRC. Donc, ça, on en a parlé il y a quelques semaines, le fameux On-Device Investigative Tools. Donc, ils ont accès à des logiciels espions dans des cas extrêmes pour avoir accès au téléphone des gens. Il y a pas mal tout ce qui se passe sur leur appareil.
Donc, ça brise pas le chiffrement, c'est juste qu'ils ont accès à ton téléphone, donc peuvent voir tes messages déchiffrés comme toi, tu les vois sur ton téléphone. Il y a une nuance là. C'est pas une porte dérobée, c'est juste que quand tu as accès au téléphone de la personne puis que tu peux voir tout ce que la personne voit sur son écran, tu n'as plus besoin de briser le chiffrement.
C'est ça. Mais dans sa réponse, Brian Larkin, il disait essentiellement que la GRC dispose de moyens déjà pour contourner le chiffrement et que C22 va les aider à moderniser les forces policières. Donc, ça demeure... En tout cas, la GRC dit qu'il se référait uniquement à ces outils d'enquête embarqués là, puis que C22 donne aucune nouvelle capacité de déchiffrer de l'information. Donc, voilà qui est clarifié.
Jeff est un peu sceptique, là.
Ben, je veux dire, on en parlait justement de ces outils-là qui existent depuis des années, bien avant le dépôt de ce projet de loi-là. Donc, je vois pas pourquoi il y a eu mention de ça en comité parlementaire par rapport à cette loi-là. J'avoue que je comprends pas ce bout-là, mais...
beaucoup de gens l'ont interprété comme s'il parlait de la possibilité de déchiffrer ou de briser le chiffrement dans le cadre du projet de loi, mais la GRC dit que c'est pas encore, ça qui se réfère.
Encore une fois, je note ici la récurrence, le pattern C22 et le projet de loi dont on parlait sur les réseaux sociaux. Il y a un flou, il y a un certain flou qui persiste dans les deux cas et ça donne lieu à toutes sortes d'interprétations. Voilà pour ça. On va parler maintenant de Mythos, mon cher Jeff, parce que ce modèle de Mythos... Ben, d'abord, il y a eu Mythos Preview en avril qui avait été lancé. C'était celui qui était jugé trop dangereux pour qu'on le lâche lousse comme ça. Dans une certaine présélection était faite par l'entreprise pour permettre à des entités publiques et privées d'y avoir accès. Et la liste s'est rallongée un peu au cours des derniers mois. Mais là, Anthropic a lancé Claude Fable 5, une version publique payante, agrémentée de quelques garde-fous. Jeff?
Quelques gros garde-fous.
Quelques gros garde-fous. T'as pu, entre guillemets, jouer avec.
Ouais, ben tu sais, c'est important quand même quand on parle de ces outils-là, de les utiliser pour voir comment ça fonctionne. Donc oui, j'ai fait un test avec Fable. Impressionnant comme outil, très puissant, mais je pense qu'il y a des gros bémols. Donc, c'est vraiment pas pour monsieur, madame, tout le monde. Honnêtement, je pense que la plupart des gens utiliseraient Fable et trouveraient ça pas inutile, mais difficile à utiliser, puis voire même frustrant. En tout cas, je vais vous expliquer, mais en gros, j'ai fait un test que j'avais déjà fait avec d'autres modèles d'IA. Je travaille sur un dossier en ce moment avec plein de documents financiers. Puis j'ai pour faire un test, c'est des documents que j'ai lus moi-même, donc je les connais très bien, mais j'avais déjà fait un test avec Notebook LM pour voir qu'est-ce que ça, comment ça fonctionne, comment ça peut trouver des informations là-dedans. Je l'ai essayé avec Fable. C'est assez impressionnant dans le sens qu'avec juste une invite, là, ça a réussi à sortir un dossier quand même très étoffé. L'inverse de ça, c'est que c'est extrêmement coûteux. On parlait justement la semaine dernière, là, quand l'industrie s'en va vers charger les gens aux jetons, c'est assez incroyable. Une invite, ça m'a coûté mon allocation de jetons pour la journée, ou presque.
Ton allocation.
Oui, donc mon quota.
Ouais.
Puis, tu sais, c'est pas comme ChatGPT que tu reçois une réponse rapide. Là, tu mets une invite. Moi, ça a travaillé pendant comme 35 minutes de façon complètement indépendante. Puis,
mais là, il demande à d'autres agents de travailler pour
c'est
lui.
Ça, c'est ça. Comme il coordonne d'autres agents, il leur donne des tâches spécifiques. Mais en gros, là, tu sais, c'est que c'est tellement indépendant que tu n'as quasiment plus le contrôle dessus. Tu sais, tu lui donnes ta question, puis lui, il travaille pendant X nombre de temps. Tu ne sais pas combien ça va coûter en jetons. Tu ne sais pas quand ça va aboutir. Puis, ben, tu peux pas recadrer le tir. Si tu l'arrêtes, il a déjà gaspillé ses jetons. Fait que, tu sais, c'est très... c'est un outil, je pense, pour des experts. Probablement que dans des utilisations très lourdes comme le code, je vois qu'il y a des gens qui sont super excités avec ça, mais tu demandes pas à Fable de te faire un itinéraire pour ton voyage en Espagne. Tu sais, comme, honnêtement, tu vas juste gaspiller de l'argent. Pis...
Ça coûte plus cher que le voyage.
Ben, c'est ça. D'ailleurs, c'est ça. C'est qu'il, là, il donne aux gens qui ont des forfaits payants de Anthropic, mais dans deux semaines, ça sera fini. Là. Ils vont charger. Il va falloir se connecter à l'API, puis ils vont charger au jeton. Extrêmement onéreux. J'ai vu de façon anecdotique, je ne peux pas vérifier, mais du monde sur X qui disait qu'il avait dépensé là, en quelques jours là, 200 000, 300 000 $ de tokens,
wow.
De jetons sur Fable. Puis honnêtement, l'ayant utilisé, ça me semble plausible. C'est tellement comme... Ça part, puis ça fait... C'est complètement autonome, puis ça fait juste brûler du travail de calcul.
Ouais. Puis là, les garde-fous.
Ben c'est ça.
Parlons-en, parce que...
Beaucoup de gens étaient très fâchés. Des garde-fous importants. Donc, dès que tu demandes des questions de cybersécurité, ils refusent d'obtempérer. Si tu demandes des questions sur la biologie... Parce que là, on sait que Anthropic s'inquiète que ça va pouvoir créer des armes biologiques, des choses comme ça, donc...
Mais ils passent à un autre modèle quand tu fais ça,
c'est ça? Ouais, ils passent à Opus 4.8, ouais, quelque chose ça. Comme ça, mais ils refusent. Puis ce que les gens, je voyais qu'ils étaient très frustrés, c'est que ça brûle des jetons avant de déterminer « Oh, j'ai pas le droit, fait que là, okay. tu viens de gaspiller de la force. »
Mais la biologie au sens large, là.
Oui, il y a quelqu'un sur X qui a demandé « Explique-moi comment fonctionnent les mitochondries, qui sont une partie de nos cellules. » Puis Fable a juste refusé de répondre.
Okay.
Aussi, il empêchait des gens, des chercheurs en IA d'utiliser Fable à des fins de recherche IA. On suppose pour pas que les gens puissent utiliser les forces de calcul de Fable pour faire leur propre modèle, ah, ben la fameuse distillation. Donc, il y a des gros garde-fous qui ont été mis en place. J'ai vu beaucoup de gens là, très fâchés là-dessus. D'ailleurs, en parallèle à ça, j'ai vu un tweet très drôle de John Scott Railton, qui est un chercheur en cybersécurité. Il mentionnait un blog de Socket Security qui ont remarqué que... ils ont regardé le code d'un logiciel malveillant qui analysait, puis ils ont vu dans le code, les pirates informatiques ont mis un bloc de texte qui parle de faire des bombes nucléaires. Puis l'hypothèse, c'est qu'ils mettent ça dedans pour que quand des robots conversationnels analysent ça, ils voient ce bloc-là, puis ils refusent de continuer l'analyse pour pas trouver, contourner la défense automatisée.
Oui, les pistes.
Donc, je trouvais ça quand même intéressant comme situation. Mais en gros, c'est ça. C'est que c'est potentiellement super puissant, mais extrêmement, extrêmement dispendieux. Jamais il aurait mis ça à la disposition de tout le monde là, pour des forfaits à 20 $ par mois. Là.
Mais admettons, là, sans entrer dans les détails de ton dossier que tu as fait analyser, est-ce que les résultats t'ont impressionné?
Ouais, quand même. C'est quand même impressionnant parce que, disons, lire les dossiers moi-même physiquement, puis prendre des notes, puis faire des liens, ça m'a pris quoi? 4-5 jours à la mitaine. Avec Notebook LM, ça avait pris peut-être 2 jours, puis il fallait que j'y tienne la main, tu sais, que je lui explique le dossier sur lequel je travaille, puis l'aider à trouver les pistes. Fable, je lui ai juste dit, voilà des documents, je suis un journaliste, est-ce qu'il y a une histoire là-dedans? Puis en 40 minutes, à peu près, il a sorti un dossier qui est quand même très proche de ce que moi j'ai trouvé.
Wow.
Puis c'est ça, je dois préciser, j'ai pas dit c'est quoi l'histoire, j'ai pas dit la nature. Il est même allé faire des recherches web pour trouver des reportages connexes. Donc il est allé lui-même tisser des liens. Donc tu sais, c'était quand même impressionnant, mais comme je dis, je sais pas combien ça a coûté là, en termes de jetons, cette opération-là, mais j'ai brûlé mon quota pour la journée là, en une question.
Est-ce que tu as vécu, été vécu par d'autres? Ça a créé de la frustration, une certaine colère et un ressac. Est-ce qu'il n'y a pas un réajustement qui a déjà été annoncé par...
Oui, donc Anthropic, déjà, ils ont dit qu'ils vont permettre aux chercheurs en IA d'utiliser Fable pour faire de la recherche IA. Là, ils ont vu qu'au sein de la communauté, ça faisait... ça créait là, des remous. D'ailleurs, en même temps, là, il y a eu Dario Amodei, le fondateur d'Anthropic, qui a publié un billet de blog, encore une fois, là, très philosophique sur la nature de l'IA, parce que là ça s'accélère tellement vite avec
la référence au Seigneur des Anneaux, là, au début.
Le blog commence avec une référence au Seigneur des Anneaux.
Évidemment.
Bien sûr. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est que... il dit, je parle juste du contexte américain parce qu'on est une entreprise américaine. Donc oui, c'est des principes universels, mais là, la réalité est qu'on est aux États-Unis. Lui, ce qu'il appelle, c'est que... Il appelle à l'administration américaine de créer une agence de réglementation de l'IA, un peu comme aux États-Unis, il y a la FAA qui réglemente...
l'aviation civile,
qui régule l'aviation civile. Donc, supposons que tu veux créer un nouveau aéronef, il faut que tu soumettes tes plans, puis là, la FAA regarde ça, puis s'assure que l'avion est sécuritaire pour le public, puis l'approuve. Il veut la même chose pour les modèles IA, que le gouvernement ait une agence indépendante du gouvernement qui regarde les nouveaux modèles d'IA, puis dit oui, OK, ça c'est sécuritaire, non, ça c'est pas sécuritaire. Donc, c'est un peu, ça va un peu dans le même sens de ce que l'administration Trump avait annoncé dans son ordre exécutif la semaine dernière. Donc, puis d'ailleurs, il salue l'administration Trump dans son billet de blog. On peut pas tout couvrir le blog, là, mais aussi il dit qu'il faut de moins réglementation dans d'autres sphères de la société, dont la recherche biomédicale, parce qu'il dit il y a trop de réglementation là-dedans, puis il va tellement avoir des avancées rapides avec l'intelligence artificielle que ça pourrait mettre des bâtons dans les roues pour créer des nouveaux médicaments, créer des nouveaux traitements. Donc, il faudrait qu'il y ait moins de réglementation pour les innovations créées par l'IA. Donc, plus de réglementation pour l'IA elle-même, mais moins de réglementation pour les innovations qui découlent de l'IA. Parce que là, on est en train là, de mettre des bâtons dans les roues de la super intelligence.
Large, c'est vrai.
Large, c'est vrai. Nicolas, t'as fait ça pendant que Jeff parlait.
Bon, c'est classique, là, mais écoute. C'est classique Dario Amodei.
Ça, c'est la geste classique de Nicolas dans ce genre de circonstances. Je ne sais pas si c'est le geste qui va accompagner le moment où SpaceX va formellement entrer en bourse. Ça va peut-être tourner un peu plus vite.
Si vous nous écoutez samedi, c'est probablement chose faite.
Oui, c'est ça. C'est vendredi, c'est la date qui a été fixée.
Le 12,
Pour SpaceX, qui, rappelons-le, n'est plus simplement une entreprise qui gère des opérations spatiales. C'est un réseau social, c'est de l'IA et c'est la grosse...
Télécommunication
aussi. À la tête de tout ça, celui qui l'a fondé il y a 24 ans, Elon Musk, c'est déjà historique. Avant même que ça se produise, c'est déjà historique.
Ouais, ça va être la plus grosse mise en bourse d'une entreprise. Il vise une valeur de 1,8 billion, donc 1800 milliards de dollars. Il y a un énorme intérêt de la part du public pour ces actions-là. D'ailleurs, il y a eu des petits tours de passe-passe avec les marchés boursiers. Là, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais en gros, il y a eu des changements dans la réglementation pour des indices comme le Nasdaq 100 pour permettre à SpaceX de rapidement être indexé. Donc, ça, en gros, anciennement, une entreprise qui rentrait en bourse, là, ça prenait à peu près un an avant d'être indexée. Donc, ça permettait au marché de déterminer le prix de l'action, de voir si l'entreprise est réellement profitable, si tout fonctionne bien, avant que ça soit indexé. Pourquoi? Parce que des fonds de retraite, souvent, vont acheter des actions qui sont dans l'index. Même, il y en a qui sont forcés automatiquement à le faire. On a changé les règles il y a quelques semaines. Là, ça va prendre 15 jours.
Mais c'est pas à la demande d'Elon Musk.
Selon Nasdaq, non, c'était déjà en discussion.
Ben oui.
Mais donc, on va permettre à des grosses entreprises comme SpaceX, mais aussi potentiellement Anthropic et OpenAI, qui veulent faire leur entrée en bourse cette année, on va leur permettre d'être indexés après 15 jours seulement. il va y avoir une énorme frénésie pour les actions de SpaceX. Je voyais des reportages de Bloomberg aujourd'hui où il parlait à des gens, là, des monsieur, madame, tout le monde, qui étaient comme, je voulais emprunter des milliers de dollars sur ma carte de crédit pour acheter ça parce que c'est un bon investissement. Donc, les fonds de retraite, beaucoup de fonds de retraite partout au monde vont être obligés d'acheter des actions de SpaceX là, dans quelques jours. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment scandalisés, des analystes financiers qui disent ben ça n'a aucun sens, surtout étant donné la valeur de l'entreprise sur papier par rapport à ses réelles activités commerciales. Il y a aussi d'autres choses de très particulières là-dedans, c'est que Elon Musk va rester dictateur de l'entreprise à perpétuité. Donc...
T'as dit dictateur.
Absolument. Donc, tu sais, d'habitude, quand... Non, mais c'est pas... Je pourrais être certain. Il garde contrôle complet de l'entreprise, peu importe. D'habitude, quand une entreprise va en bourse, ben, les actionnaires, ils ont un droit de vote. Si quelqu'un a beaucoup d'actions, ils ont le droit d'influencer les décisions de l'entreprise. Mais là, non, Elon Musk garde en sa possession une classe d'actions qui fait en sorte que c'est lui qui est en charge de l'entreprise, peu importe ce qui advient. Donc, les actionnaires n'auront absolument pas leur mot à dire sur la gestion de cette entreprise-là. Donc, ça sera intéressant à voir ce qui va se passer, mais à peu près tout le monde est certain, tous les gens qui observent les marchés financiers disent que ça va être absolument massif, puis que Elon Musk, du jour au lendemain, va être billionnaire. Donc, il va avoir au moins 1000 milliards de dollars. Donc, comme je disais dans l'infolettre des décrypteurs cette fin de semaine, c'est 1 million de millions de dollars. Donc, prenez en compte ce niveau de richesse-là. Là. 1 million de millions de dollars.
Ouais, c'est quelque chose. Je serais curieux de savoir, sur le plan psychologique, qu'est-ce que ça fait d'avoir une telle emprise sur une entreprise comme SpaceX et d'être assis sur une fortune aussi colossal, le God effect, l'effet Dieu que ça peut susciter dans la tête d'une personne qui déjà a un certain ego, n'est-ce pas? Et son niveau d'influence politique et autres dans le débat public, non pas juste en Amérique du Nord, mais dans le monde entier. Quelle histoire, tout ça?
Non seulement ça, mais cette entreprise-là, du jour au lendemain, va probablement devenir comme 7e ou 8e plus grosse entreprise au monde. Donc, la santé des marchés financiers va dépendre en partie de la santé financière de cette entreprise-là. Ça sera intéressant à suivre, mais c'est ça. C'est vraiment un bouleversement majeur, je pense, dans le monde dans le monde de la finance, mais aussi des compagnies de tech. Mm-hmm. Puis d'ailleurs, je posais la question dans l'infolettre cette fin de semaine. Qu'est-ce que ça veut dire, une entreprise de tech, fondamentalement, au niveau philosophique? Mm-hmm. Je vous invite à lire ça. Je pense que
c'est
une question que je trouvais intéressante. Une compagnie comme SpaceX, qui, parce que c'est une compagnie de tech, les règles ne s'appliquent pas à elle.
Puis parlant d'entrée en bourse, on le dit depuis quelques semaines, là, il y a quand même ça se bouscule au portillon. Il y a SpaceX, mais il y en a aussi deux autres là, qui arrivent prochainement.
Oui, la semaine dernière, c'était Anthropic qui a soumis ses documents officiels là, pour possiblement faire son entrée en bourse. Cette semaine, c'était OpenAI qui a déposé auprès du gouvernement américain son formulaire S1 de façon confidentielle. On n'y a pas accès, on ne peut pas le voir, mais c'est la première étape pour rentrer en bourse, ça cause des remous. J'ai vu d'ailleurs, c'est un article du Financial Times, le titre c'était « Chat is dead », le chat est mort, et c'était un article où il parlait à des gens à l'intérieur de OpenAI qui, paraît-il, OpenAI veut complètement changer son modèle d'affaires, mettre beaucoup moins d'emphase sur la portion robot conversationnelle de la chose, le chat, alors que le nom du robot, c'est ChatGPT, puis aller beaucoup plus vers des solutions d'affaires. On sait que...
Dans l'agentique, finalement.
Oui, dans l'agentique, mais aussi des outils pour le code, des choses vraiment pour les entreprises plutôt que pour monsieur, madame, tout le monde. On sait que la plupart des utilisateurs de ChatGPT, c'est des utilisateurs gratuits, qui ne rapportent pas beaucoup de sous à l'entreprise ou des gens qui payent peut-être quelques dollars par mois pour avoir un peu plus de fonctions. Mais vraiment, du côté affaires, c'est pas mal Anthropic qui a pris le dessus là-dessus. Puis là, on s'inquiète du côté d'OpenAI d'avoir perdu du terrain envers son rival, alors qu'OpenAI, il y a quelques années, c'était l'intelligence artificielle. C'est un peu le Kleenex de l'intelligence artificielle. Tout le monde dit ChatGPT. Plutôt que de dire robot conversationnel, il disait ChatGPT. Ah oui.
Parce qu'il y a vraiment une commodification de ce genre de produits-là de plus en plus. Puis ça fait déjà un certain temps que, disons, le système d'exploitation Android est comme dopé à l'IA, puis tu as toutes sortes de fonctionnalités propulsées par l'IA à même le système d'exploitation. Bien là, cette semaine, on a vu Apple aussi au WWDC qui ont montré enfin de quoi aurait l'air...
Siri AI.
Siri AI, mais Apple Intelligence qui est intégré partout à travers le système d'exploitation. Fait que, tu sais, maintenant, sur ton téléphone, que ce soit Android ou Apple, tu vas pouvoir juste instantanément poser des questions à un robot conversationnel qui a accès à tous tes fichiers, qui peut se connecter autant au web qu'à tout ce que tu as sur ton appareil. Fait que comme les produits de robots conversationnels comme ça, il n'y a plus tant un intérêt. Je veux dire, à moins que tu sois attaché à la marque OpenAI et que tu veux encore ouvrir ton application ChatGPT, OK, je comprends, mais ce n'est pas ça qui va rendre l'entreprise riche, c'est pas ça qui va la rendre profitable. Donc, c'est un peu normal qu'on voit ce pivot-là après un certain temps, sans mentionner qu'en tout cas, il y a des gens aussi plus branchés qui utilisent des modèles en code source ouvert. Mais bon, ça, c'est vraiment pas monsieur, madame, tout le monde. Mais c'est ça. Le changement de stratégie est logique quand on considère à quel point c'est rendu une commodité, ces affaires-là.
Puis d'ailleurs, on parlait la semaine dernière, comment la facture commençait à être due. On parlait de la facturation aux jetons. On apprenait jeudi matin, juste avant qu'on enregistre le balado, que OpenAI considère couper leur prix, donc baisser leur prix pour les jetons. Ce qui serait surprenant, étant donné que cette entreprise-là perd des milliards de dollars chaque année. Donc, d'une part, ils veulent aller vers des solutions d'affaires. De l'autre part, ils veulent baisser leur prix parce que là, ils se font manger leur lunch par Anthropic. Donc, est-ce qu'ils vont faire leur entrée en bourse cette année? Ça sera bon.
C'est la quadrature du cercle qui se poursuit pour OpenAI et bien d'autres. Nicolas, t'as glissé tantôt le terme de source ouverte.
Oui.
C'est un peu le modèle sur lequel, si je comprends bien, est calqué Cohere, dont on va parler?
Ben,
Cohere,
oui, en partie,
mais j'aimerais ça qu'on... C'est une première conversation qu'on va avoir sur cette entreprise canadienne basée à Toronto. Il est fort probable qu'on en parle encore et encore au cours des prochains épisodes, la saison prochaine, parce qu'elle est de plus en plus, cette entreprise canadienne d'IA, dans l'œil médiatique, de plus en plus aussi dans la mire des gouvernements. Au fédéral, il y a une signature d'entente, de protocole d'entente qui a été faite en août 2025. Et là, on apprenait que le Québec a signé une entente non contraignante avec Cohere, tout ça dans le but d'améliorer, espère-t-on, l'efficacité administrative de l'appareil étatique, dans la prestation de services aussi. Cohere est aussi souvent nommé quand il est question de la stratégie nationale en IA parce que c'est un gage, dit-on, de souveraineté numérique pour le Canada. Mm-hmm. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'on en parle un petit peu, ce qu'on en sait à ce stade-ci de cette entreprise.
Oui, parce qu'on dirait qu'on en parle de plus en plus depuis une semaine. Tu le mentionnais, le Québec avec son entente exploratoire. Quand on lit c'est quoi l'entente, c'est vraiment juste, on dirait, d'avoir des discussions avec Cohere puis de voir comment est-ce qu'on peut intégrer possiblement de l'IA pour améliorer l'efficacité de l'État et autres. Il n'y a aucun engagement financier pris encore, là. Mais c'est aussi... On parlait de la stratégie IA du Canada la semaine dernière, puis on a vu Kevin Solomon a parlé quelques fois de Cohere depuis la semaine dernière. On voit qu'on braque beaucoup les projecteurs sur cette entreprise-là. Avec raison, on pourrait dire, parce que c'est le seul modèle de fondation IA canadien. T'sais, quand on parle d'un modèle de fondation, c'est vraiment des très gros modèles d'IA desquels on peut dériver plusieurs produits différents. Donc ça, c'est la seule entreprise de la sorte au Canada, alors qu'il y en a des dizaines aux États-Unis, il y a plusieurs autres pays qui en ont plusieurs. T'sais, il y a d'autres pays, comme mettons la France, il y en a deux ou trois.
Mistral
en fait partie. La Corée aussi, il y en a trois, quatre. Mais le Canada, c'est vraiment le seul modèle de fondation. Donc, on a l'air de miser beaucoup là-dessus quand on parle de souveraineté numérique au Canada. Leur modèle en tant que tel, il offre pas d'interface publique de robots conversationnels.
Tu peux pas aller jouer avec Cohere, genre, en ce moment. Tu peux aller jouer avec des modèles ouverts, mais pas...
C'est ça. Tu sais, comme tu peux aller sur Hugging Face où est-ce que les entreprises vont déposer leurs modèles. Donc, ils vont déposer des modèles en code source ouvert comme ça que les gens peuvent aussi faire rouler sur leur machine. Mais ils ont pas de produits publics comme ça. Ils sont plutôt axés sur les entreprises. Leur marketing est beaucoup axé sur la souveraineté des données des entreprises aussi, donc qu'on peut faire rouler ces modèles-là sur les serveurs. Mais quand on regarde, par exemple, les fameux benchmarks, donc les tests de performance de leur modèle versus d'autres modèles en code source ouvert, ils sont pas au sommet de la liste, disons. Là, c'est pas une force majeure en termes de performance, mais j'ai vu que dans les dernières semaines, ils ont sorti deux modèles en code source ouvert, puis ils interagissent beaucoup avec la communauté sur Reddit. Ils ont une grande présence avec la communauté de d'IA en code source ouvert, donc ils sont quand même bien vus de ce côté-là. Puis il y a quand même des grandes pointure dans l'entreprise. On entend beaucoup parler de Joël Pinault, notamment, qui était à Meta avant, qui maintenant est rendu là. Il y a le cofondateur de l'entreprise, Aiden Gomez. Lui, il faisait partie de Google Brain dans les années 2010. Mm-hmm. Puis, il était un des co-auteurs du papier Attention is All You Need, qui est vraiment comme...
La pierre d'assise des grands modèles de langage.
Oui, c'est vraiment, c'est comme le papier le plus influent du milieu de l'IA qui explique comment ces modèles-là fonctionnent. Tu sais, le cofondateur aussi, Nick Frost, qui était aussi à Google Brain, il était un étudiant de Jeffrey Hinton. Donc, il y a quand même comme des gros noms de l'IA canadienne là-bas. Puis, on risque d'en entendre de plus en plus parler à cause de cette stratégie de souveraineté numérique du gouvernement fédéral qui a été dévoilée. On peut aussi se poser la question, est-ce que le fédéral va investir dans Cohere? Est-ce qu'ils vont même acheter des parts de l'entreprise? Parce qu'on le sait, dans la stratégie, on parle d'un fonds pour potentiellement prendre des participations dans des entreprises canadiennes d'IA prometteuses. Est-ce que ça rentre dans la description? On sait que le fédéral a déjà fait un prêt de, je pense, 240 millions de dollars. L'an dernier, c'est un prêt conditionnel pour bâtir des centres de données pour Cohere. Donc, visiblement, là, on mise beaucoup sur cette entreprise-là pour mener à bien la vision de souveraineté numérique au Canada. On verra bien ce qui va arriver. Elle vaut 7 milliards de dollars aux dernières estimations.
Quelque chose comme ça. Donc, tu sais, c'est beaucoup, beaucoup moins que des entreprises comme OpenAI ou Anthropic, sur papier, du moins. Beaucoup d'espoir dans cette entreprise-là au Canada. Mais comme on dit, c'est ça, c'est vraiment, d'après ce que je comprends, leur solution d'affaires, c'est vraiment de faire rouler l'IA sur les données de l'entreprise seulement.
Oui, le RAG.
Le fameux RAG.
Ouais.
Le fameux RAG.
Donc, tu sais, c'est ça, on peut... Il n'y a pas vraiment d'équivalent avec ChatGPT ou, tu sais, Claude, qu'on peut aller jouer dedans puis voir de quoi il s'agit. C'est vraiment... Ils font des solutions d'affaires pour les entreprises en question avec qui ils font affaire. Donc.
Ouais. Avec des petites incursions à l'international, puisque Cohere a acheté une compagnie allemande, Aleph Alpha.
Qui était le seul modèle de fondation
en Allemagne.
Fait que là, il n'y a plus de, de modèle de fondation allemand. Tu sais.
On est big ou on ne l'est pas au Canada? Ceci dit, j'attire votre attention aussi sur un article de Walrus qui évoque certaines zones d'ombre. Il y a un groupe de 14 éditeurs, dont le Toronto Star, Condé Nast et Forbes aussi aux États-Unis, qui ont déposé une plainte contre Cohere pour avoir utilisé certains de leurs articles sans autorisation pour entraîner les systèmes d'IA.
Mais ça, c'est important.
Ça, c'est important que ça se fasse. Là.
Mais c'est important aussi à mentionner, parce qu'on a l'impression, souvent dans l'imaginaire collectif, qu'il y a des entreprises comme OpenAI et Anthropic qui ont des gros modèles ouverts, puis eux, ils ont scrapé, ils ont moissonné l'Internet au complet pour entraîner leurs affaires, leurs robots. Alors que des entreprises comme Cohere, qui font des solutions fermées, des fameux RAG, souvent des gens ont l'impression que c'est juste entraîné sur les données de l'entreprise et pas sur le web au grand complet. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ces robots-là, même si on leur donne seulement accès aux données d'une entreprise pour fonctionner, le modèle en tant que tel, pour être conçu, il a besoin d'énormément de données. Puis oui, souvent, ils ont moissonné le web au grand complet, comme OpenAI, comme Anthropic. Je sais pas c'est quoi la base de données de Cohere, mais c'est pas réaliste. On peut pas former un large modèle de langage juste sur les données d'une seule entreprise. Il n'y en a pas assez. Il n'y a peut-être pas d'entreprise assez grande au monde pour... Donc, il faut garder ça en tête. Là, quand on vend des robots qui sont... ça fonctionne juste sur vos données. Oui, peut-être, mais le modèle en tant que tel, il a été entraîné sur une base de données beaucoup plus vaste. Donc, faut vraiment comprendre ça.
Oui, et puis je suis très content, Jeff, que tu amènes cette nuance dans la conversation à ce sujet. Donc, le gouvernement fédéral, ça sera à prévoir, qui va raffermir les liens avec Cohere au fil des prochaines années. Ce qui fait beaucoup plus grincer des dents, c'est quand le gouvernement fédéral tisse des liens avec une entreprise telle que Palantir. Hein? Parlons-en. Je lève mon chapeau. bien haut à notre Rania. Collègue Rania Massoud, qui effectue un excellent travail, qu'elle soit à Beyrouth pour parler du conflit qu'il y a eu là-bas ou pour parler de ce qui se trame sur la scène fédérale. Bravo, Rania. Deux dossiers qui concernaient Palantir et ses liens avec le gouvernement fédéral. Un petit mot là-dessus?
Oui, elle a obtenu des demandes d'accès à l'information sur des contrats que le gouvernement fédéral avait signés avec Palantir. Ça a débuté en 2019-2020. À l'époque, on parlait là, de 1 million de dollars, ensuite en 2020 à 14 millions de dollars. Est-ce que obtenu comme information, c'est que le gouvernement a versé 44 millions de dollars à Palantir. Ça, c'est en date de mars 2025, donc c'est beaucoup plus que ce qui avait été annoncé. Le gouvernement dit que, bon, genre d'entente normale, les coûts évoluent, qu'il y avait une enveloppe qui était prévue. Donc, c'est quoi le contrat en question, là? C'est pour l'utilisation de deux outils de Palantir, Foundry et Gotham. Palantir a vraiment la réputation d'être une entreprise de défense ou de renseignement ou des choses de surveillance. Mais Foundry, c'est plus que ce que je comprends, là, c'est de la gestion de base de données. Il y a des hôpitaux qui utilisent ça, par exemple, en Grande-Bretagne. Ça, on dit qu'on l'a évalué pendant une période entre 2022 et 2024, puis que le gouvernement a décidé de passer à autre chose. Donc, on ne l'utilise plus. Gotham, par contre, ça, c'est une autre paire de manches. Là, c'est vraiment un modèle de défense qui permet d'intégrer des informations de différentes sources pour déterminer des priorités d'attaque. On avait vu une démonstration au cours des derniers mois là, qui avait vraiment choqué les gens, où on voit une genre de console qui a l'air un jeu vidéo où l'armée peut mettre des différentes cibles, puis là, l'intelligence artificielle prend tout ça puis établit des priorités. Donc, vous devriez attaquer ça plutôt que ça en premier. Pas prendre des décisions, là, mais suggérer, guider par exemple, décisions, guider peut-être. Des décisions.
Ouais, c'est ça.
Donc ça, il semble que le gouvernement canadien utilise encore ça. Ils n'ont pas démenti utiliser ça en ce moment. Et bien sûr, c'est secret. On ne sait pas exactement là, ce qui est la façon dont c'est utilisé, mais ce système-là qui est utilisé, entre autres, par le gouvernement américain, serait utilisé par les forces canadiennes.
Ça. Puis ce qu'on apprend aussi, c'est qu'il y a près d'une vingtaine d'employés qui ont pu accéder à des documents classifiés, là. Donc, ça pose des questions aussi sur la sécurité de ces données-là, surtout quand on considère que les entreprises américaines, s'ils détiennent des données avec le Cloud Act, là, des données numériques, ça peut être le gouvernement américain peut y accéder. Fait qu'encore qu'on parle de souveraineté, peut-être pas numérique, mais de données.
Oui, surtout dans un contexte où le Alex Karp, le PDG de l'entreprise, qui est très volubile.
Oui, disons-le comme ça.
Mais tu sais, lui, il dit tout le temps que la responsabilité de Palantir, c'est avant tout, c'est la défense des États-Unis, puis qu'on n'hésitera pas à travailler pour les intérêts américains au-delà de ceux des autres pays.
Ouais.
Dans un contexte où, justement, les relations entre le Canada et les États-Unis, c'est pas à son plus haut niveau, disons, de l'histoire. Le gouvernement accorde des contrats à une entreprise qui, du moins là, dans sa rhétorique, pourrait être potentiellement hostile. Donc, ça soulève toutes sortes de questions, hormis les activités de Palantir, comme je dis, qui a la réputation d'être une entreprise qui fait de la surveillance, la reconnaissance faciale pour les services policiers, des choses qui sont extrêmement controversées.
Pour ICE.
Pour ICE, oui, entre autres. L'automatisation des cibles dans temps de guerre, c'est des questions qui sont, disons, de notre époque.
Ah oui, tristement de notre époque. On mettra en lien sous la vidéo YouTube, notamment les articles de Rania Massoud à ce sujet-là. Vos commentaires sont les bienvenus, que ce soit sur Palantir, sur Courier, sur l'interdiction des médias sociaux aux moins de 16 ans, sur Chat qui est mort, soi-disant.
Sur notre annonce la semaine prochaine.
Sur notre annonce la semaine prochaine. Allez-y gaiement avec les prédictions et les hypothèses. Est-ce qu'on a le temps ou est-ce qu'on veut parler du contenu dégénératif qui concerne Mark Zuckerberg, mes amis?
C'est une belle catégorie de contenu que Jeff a découvert cette semaine. Là, je me suis abonné à de nombreuses pages Facebook parce que, juste un aparté, là, moi, j'adore le contenu dégénératif sur Facebook.
Qu'est-ce que t'aimes là-dedans?
Il y a quelque chose de nihiliste, je pense, de dans nihiliste. Cette appréciation. Tu fais, c'est rendu un dépotoir, puis je vais juste l'apprécier.
Faut juste comprendre qu'il y a une colère, un humour... nihiliste, voire post-nihiliste.
Ouais, je pense que c'est post-nihiliste.
Des fois, il m'envoie des memes. C'est un jeune.
Il m'envoie des memes. Putain, je perds des cheveux.
Tu sais, je trouve pas ça drôle. Puis lui, il est comme, ouais, mais l'effet que c'est pas drôle, c'est ça qui est drôle. En tout cas.
Mais en tout cas, c'est des pages de jeunes créateurs. Jeunes créateurs. Dans des pays, on pourrait dire d'Asie.
Philippines, Indonésie, que j'ai trouvé, ouais. Non, en fait, j'ai cliqué sur une vidéo. Puis là, mon feed de Reel, c'est juste ça. C'est des vidéos générées par IA de Mark Zuckerberg et de sa femme, Priscilla.
Ouais, puis des fois, il y a avec les créateurs aussi.
Ouais.
Les créateurs se mettent en scène avec lui pour dire comme, regarde, je suis un pro de Facebook, donc
mais
faites affaire avec moi.
Mais comme toutes sortes de situations bizarres. J'en ai vu un ce matin, c'est Mark Zuckerberg en habit de pilote de ligne avec sa femme, où il y a genre Mark Zuckerberg sur un jet ski avec des liasses d'argent.
J'ai vu Mark Zuckerberg qui prend un café avec un des gars qui détient un des profils en question. Donc, ça a l'air de la pub pour des services de Facebook qui offre
c'est
aussi.
Ça, c'est ça l'objectif, c'est ça? C'est...
Difficile de savoir, mais ça a l'air d'être en partie ça. Mais il y en a d'autres, c'est vraiment juste purement du contenu de Zuckerberg sans que la personne se met en scène.
Ouais, c'est qu'il y en a une page, c'est carrément juste... En anglais, c'est la vie de Mark et Priscilla. Puis c'est juste comme... Mark Zuckerberg et sa femme Priscilla Chan qui, bon, ils font du jardinage ou ils se promènent dans la rue, ils se donnent des becs, ils dansent ensemble. C'est quand, en tout cas...
Mais c'est pas toi qui soulignais, Jeff, l'ironie de la chose quand même, AI Slop, puis là, Mark Zuckerberg qui goûte à cette propre médecine.
Ben, je sais pas si vraiment il y a de l'ironie là, parce que c'est quelque chose que Meta encourage.
Ben, c'est ça.
Donc, tu sais, je pense pas que ça le dérange outre mesure, Mark Zuckerberg.
Qu'est-ce qui le dérange?
Non, tant que c'est pas du contenu qui est violent, c'est pas du contenu qui fait de la désinformation, c'est pas du contenu haineux.
Diffamatoire non plus.
C'est complètement faux. Puis tu sais, tu vois dans les commentaires qu'il y a des gens qui semblent y croire à ces vidéos-là, mais c'est juste... En tout cas, tous les moyens sont bons pour aller chercher l'attention sur les réseaux sociaux de nos jours, dans une époque où... l'IA générative permet de créer infini de contenu. Les gens peuvent trouver des niches. Puis là, il y a des dizaines de pages où on va trouver la niche dont on va générer des vidéos de Mark Zuckerberg. Pour... Ouais, il trouve ça très
non, c'est incroyable.
Ça, c'est un petit rire nihiliste. Là. Qu'est-ce que t'as vu, là?
Ben, je sais pas, tu vois là, il y a la page PACBOS. C'est PAK espace BOS. Je vous invite à aller la suivre. C'est vraiment du bon contenu. Donc, il y a
recommandé par Nicolas.
Plusieurs photos de Mark Zuckerberg qui mange du poisson dans un restaurant. Puis c'est écrit, je sais pas c'est quoi la langue, mais c'est écrit Boss Meta avec un emoji de visage et des cœurs tout autour. Donc une
ça,
autre photo.
Ça, c'est philippin, je crois.
Philippin.
Ouais.
Donc t'as ça, t'as Zuckerberg qui mange du poisson, t'as Zuckerberg qui tient une plante dans un jardin. Une autre photo de Zuckerberg qui tient une plante. Il y a vraiment beaucoup de Zuckerberg avec la plante.
Hey, c'est ouais.
C'est incroyable. Pour vrai, là. Ça, là, c'est la crème de Facebook en 2026. J'adore ça.
Ça en dit long
j'adore
sur
ça.
L'état de Facebook en 2026.
Mais tu sais, entre ça et de la désinformation ou du contenu IA raciste, tu sais, j'avais quand même, je préfère des choses insignifiantes.
Vu comme ça, mon cher nihiliste, ouais, peut-être. Hey, en parlant de Facebook, il n'y a pas une phase 2, un deuxième film, Social Network, qui s'en vient?
Ouais, qui a été annoncé cette semaine, une genre de suite à The Social Network, avec Jeremy Strong qui joue Mark Zuckerberg. Étrange choix, parce que...
Sort bien quand même.
Ben, il y a quand même l'intonation de voix, mais Jeremy Strong est beaucoup plus vieux que Mark Zuckerberg. Il lui ressemble pas vraiment physiquement. On verra là. Ça a l'air d'être... parce que je comprends, le film, c'est sûr...
À partir de quand, oui?
Ouais, c'est sûr quand il a commencé à avoir des lanceurs d'alerte qui contactaient les médias pour... Il est encore en train de regarder... J'essaie d'avoir une discussion.
Non, mais ça, c'est perpétuel.
Excuse-moi, mais...
Nicolas, quand il passe sur un truc, là...
Ouais, je suis un peu
des fois, c'est des chansons IA, puis là, on les entend. Ah, Jeff, j'adore. On les entend à quelques reprises par la suite. Hein?
Oui, excuse-moi.
Non, pour classe. Ça semble être un film sur quand des lanceurs d'alerte à l'intérieur de Meta ont commencé à contacter les journalistes pour dire « Hey, il y a des choses dangereuses qui se passent à l'intérieur de l'entreprise. » J'ai juste vu le début de la bande-annonce, là, donc ça sera à suivre.
Ouais, puis c'est l'actrice de Anora qui joue Frances Haugen aussi.
C'est Frances Haugen, oui.
Lui ressemble pas non plus, mais c'est des bons acteurs et actrices. C'est prometteur, je pense.
Ouais. Frances Haugen, qu'on avait interviewé au Décrypteur lors de ses passages remarqués à Montréal, Nicolas. Taylor Lorenz aussi, je pense qu'il a commenté ça en disant, bon, un autre film qui va diaboliser les réseaux sociaux, qui va permettre ensuite de mettre en place des politiques qui vont à l'encontre de la liberté. Bon.
Prix chaude
de Taylor Lorenz. Hey, les amis, c'est tout pour cet avant-dernier épisode du balado des décrypteurs pour cette troisième saison. Nicolas qui continue avec son petit sourire. Il a vu quelque chose qui le fait sourire. Bon, si vous avez un mot pour qualifier notre époque, un adjectif, un épithète. Faites-nous part de tout ça. Je serais curieux de voir comment vous qualifiez, comment vous voyez votre... Hey, impossible de terminer cet épisode voilà. Sans cacophonie.
Je me fais un tatou de ça.
Okay. C'est Mark Zuckerberg très content avec les deux pouces à l'air. Comme ça.
Je n'ai réparé rien.
Pack boss.
Et ça, c'est hyper drôle, hein, Nicolas?
C'est vraiment bon.
Ah, c'est vraiment bon. Je trouve qu'il y a une vie parallèle. C'est lui qui produit ces affaires. Moi.
I wish.
Ah ouais, hein?
Ce serait le fun.
Il est capable. Si vous saviez. Ça, c'est le geste bon. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube.
C'est drôle.
Non, non.
Bonne fin de semaine, tout le monde.
Bonne fin de semaine, tout le monde. Avant que ça dérape, mais ça, on le fait souvent de ce temps-ci autour de la table. Nicolas, on a fait un double cette semaine. OK, ça y est.
Les gens sur radio, ils n'ont aucune idée de quoi tu parles.
Pas grave. Ils iront voir sur YouTube. Merci à tout le monde qui nous accompagne, que ce soit Caroline en régie cette semaine, Martine Roy derrière, Louis-Charles, cher caporal aussi.
Wow.
Colonel. Et tout le monde de la merveilleuse famille des décrypteurs. Grande nouvelle à vous annoncer la semaine prochaine d'ailleurs. Soyez à l'écoute, bien entendu, pour ce dernier épisode de la troisième saison. Je me fais porte-parole de mes collègues. On vous aime. Allez, salut.